Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue dans C'est ça la France, votre émission du dimanche qui met en avant les talents français. Nous sommes à 2 jours du réveillon de Noël et la féerie de Noël passe par les cadeaux, bien évidemment, mais aussi par la décoration de la table, les choix de la nappe. Donc je vous propose aujourd'hui une spéciale réveillon. Alors tout à l'heure, vous découvrirez un jeune homme qui a une idée de cadeau très originale, une box avec que des produits de qualité, mais des produits monastiques et par là même valoriser les produits de l'artisanat monastique. Mais ça, c'est tout à l'heure. Tout de suite, direction les Pyrénées-Atlantiques, la commune d'Espelette pour découvrir une entreprise familiale créée en 1908 et qui fabrique du linge basque.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengirma.
Bonjour Jérôme Fanfare.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de Tissage de Luz, une entreprise basque qui réalise donc des produits 100% made in basque, à la tête d'une entreprise centenaire, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement. Je suis moi-même la cinquième génération à évoluer dans le monde du linge basque.
Donc vous êtes l'arrière-petit-fils du fondateur Jean-Baptiste Bouze, qui était lui-même fils de tisserand. Donc on est vraiment... la famille avait cette spécialité depuis même plus que 5 générations, finalement.
Exactement, oui. Jean-Baptiste a été le premier à moderniser son métier et à développer une affaire avec des métiers mécaniques à l'époque. Son père ayant il était le premier dans la famille à faire du tissage sur des métiers traditionnels. À l'époque, en Béarn, et par la suite, après, la famille s'est déplacée du côté de Bayonne pour continuer le développement de ses affaires.
Donc, depuis 5 générations, votre famille propose donc différents produits à base de linge basque. Il y a une vraie fierté dans la région quand on parle du linge basque. Hein. C'est ces rayures qui caractérisent donc ce fameux linge, ces grandes rayures de couleurs qui ont une histoire.
Hein. Oui, tout à fait. Mais écoutez, le linge basque, c'est vrai, aujourd'hui emblématique de notre région, de notre pays basque. Les rayures, la thématique des rayures, c'est vrai, est très ancienne. Elle remonte à l'époque où justement mon aïeul, le père de Jean-Baptiste, tissait sur métier à main et se déplaçait de maison en maison, de ferme en ferme pour tisser le linge traditionnel à l'origine. C'est vrai qu'on équipait les maisons basques et chaque famille avait une rayure qui représentait sa famille et qui était distincte des autres familles de la région, par exemple.
Voilà. Alors moi, vous me direz si je suis dans le vrai ou pas. J'avais entendu dire que c'était même d'origine agricole au tout début pour protéger les animaux de la chaleur, des parasites.
Voilà, alors effectivement, il y avait le linge de la famille et les fermiers munissaient les bêtes de toile qu'on appelait la mante à bœuf pour les recouvrir, les protéger du soleil, également des parasites. Donc chaque exploitation agricole avait une rayure particulière qui
distinguait un petit peu des autres.
Exactement, oui.
Alors ce drap marqué de 7 rayures, 7 grandes rayures. Pourquoi 7 rayures?
Alors les 7 rayures.
À l'origine, parce que j'imagine que c'est pas toujours respecté.
Représente les 7 provinces du Pays Basque, voilà.
Donc et alors ce linge était fait en lin. Alors aujourd'hui c'est toujours en lin ou on le fait en coton ou dans d'autres?
Alors tout à fait. À l'origine, le linge basque était fabriqué avec les fibres textiles qui étaient cultivées localement, donc c'est-à-dire le lin, le chanvre également qui était utilisé à l'époque. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un petit peu fait moderniser aussi cet aspect de la création et on utilise plus facilement du coton qui nous permet, si vous voulez, des facilités dans la fabrication. On peut noter néanmoins l'utilisation du lin qui perdure depuis ces années-là parce que ça reste un matériau noble et que les gens ont plaisir à acheter et à retrouver dans nos collections.
Au niveau des motifs, hein, donc 5 générations, il faut constamment se renouveler. On reste dans les formes géométriques ou on peut se permettre d'autres petites folies?
Alors, justement, nous, notre parti pris aujourd'hui, c'est de se donner la liberté d'évoluer dans notre style. Mais ça ne date pas, je dirais que ça ne date pas même d'aujourd'hui, parce que tout au long de dans notre famille, tout au long de ces générations-là, on s'est permis justement ces audaces en termes de création. On est sorti des rayures, on va dire traditionnelles, et des trois ou quatre couleurs qui étaient utilisées dans le linge traditionnel. À différentes époques, on a aussi on a inventé des motifs géométriques. On a utilisé des machines telles que le jacquard pour nous permettre d'avoir une liberté encore plus grande. Et aujourd'hui, on reste dans le même objectif, si vous voulez, dans nos créations, c'est-à-dire que on a par exemple une soixantaine de couleurs maintenant de fils que nous utilisons pour nos collections.
Et donc on ose toutes les associations de couleurs.
exactement. On travaille beaucoup la couleur. Pour nous, c'est un petit peu notre marque de fabrique, le talent de nos créateurs qui nous permettent justement ces mariages audacieux et qui nous distinguent un petit peu de nos autres confrères ou d'autres maisons qui évolue aussi dans le monde du linge basque aujourd'hui.
Bon, alors Jérôme Fanfare, oui. Noël approche, on est à deux jours du réveillon. Alors justement, j'imagine que Tissage de Luz a préparé une collection spéciale Noël. Comment fait-on pour apporter un peu de soleil sur notre table?
Oui. Alors le c'est vrai qu'on note qu'à cette époque, bon, c'est une belle époque pour mettre en scène de jolies tables. C'est vrai qu'on accentue beaucoup les belles présentations dans nos boutiques, et on note que l'intérêt de notre clientèle se porte justement sur le renouvellement de leur linge de table, donc de nappe. Par exemple, parce que c'est tout simplement Noël, un moment où les gens se réunissent et ont envie de recevoir et d'orner leur table de beaux tissus. Et c'est justement la proposition qu'on peut leur faire aujourd'hui. On développe des collections qui font appel à du linge traditionnel aussi. C'est-à-dire, on a développé une gamme qui s'appelle Archive et qui revisite des modèles traditionnels de notre maison. Et justement, ce genre de...
Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette collection? Parce qu'on est en radio pour voir un peu, pour nous emmener avec vous.
Il y a différents aspects, oui, différents aspects. Il y a des fonds ouvrés, des fonds qui sont un petit peu plus travaillés, avec du lin justement, des rayures traditionnelles qui sont généralement rouges et bleus, mais qu'on fait un petit peu évoluer aussi chez nous. On fait appel à du vert, à différentes couleurs. C'est vrai que la marque de fabrique aussi de la maison, c'est l'utilisation, comme je disais, de la couleur et des couleurs vives. Et les gens ont plaisir justement à mixer du linge, par exemple des nappes de leur famille, avec des serviettes par exemple qui sont un peu plus colorées de nos collections actuelles. Voilà, ce sont ce genre d'audace que nos clients s'autorisent en venant chez nous.
D'ailleurs, vous êtes même à la boutique de l'Élysée, en parlant de rouge et de bleu, ça m'a fait penser à votre collection bleu blanc rouge.
Oui. Tout à fait. Ouais, c'était une belle reconnaissance pour nous de notre savoir-faire, et c'était un plaisir de collaborer pour créer cette collection Élysée. Ouais.
En tout cas, ce linge basque rencontre un franc succès, et pas que dans votre région. Effectivement, hein. On est c'est vraiment un linge qui a une forte identité, et peut-être que ça fait partie du succès de ce linge basque.
Oui, effectivement, ben le linge basque, on a la chance de vivre dans une région qui a une belle identité, qui a beaucoup d'atouts et qui attire le regard, on va dire. Et effectivement, nos clients qui viennent au Pays Basque, qui visitent notre région, ont plaisir à venir nous voir chaque saison pour découvrir les nouveautés présentes dans nos magasins. Et ça, ils emmènent, j'ai l'impression, un petit peu du Pays Basque en rentrant chez eux.
Merci beaucoup, Jérôme Fanfare. Donc, je rappelle que vous dirigez Tissage de Luz, cette belle maison familiale. Et merci encore, et je vous souhaite un joyeux Noël.
Merci. Merci à vous. Joyeux Noël. Au revoir.
Au revoir. Avez-vous envie d'offrir un cadeau original pour Noël? Pour les retardataires, que pensez-vous d'une box apéritif avec des produits fabriqués par les moines? À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, votre émission consacrée au savoir-faire français. Aujourd'hui, je vous propose une spéciale réveillon. Nous sommes à deux jours du réveillon de Noël et je vous propose surtout de découvrir un jeune homme qui a eu une idée excellente, un jeune homme avec sa sœur, je crois. Il a eu cette idée de proposer une box très originale avec que des produits réalisés par des moines. Divine Box, on en parle tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengirma.
Bonjour Combes.
Bonjour Nathalie.
Alors vous avez eu cette idée avec votre sœur, c'est ça, créer une box qui rassemblerait, donc qui rassemble des produits réalisés par différents moines.
Exactement, c'est l'idée qu'on a eue au départ de faire Divine Box, une box mensuelle comme ça existe pour le vin ou pour les produits de beauté, mais version produit monastique, donc fabriqué uniquement dans les abbayes. L'idée est assez absurde, étonnante parfois, elle vient de notre frère qui habite à Barcelone, on est une famille de 4 enfants. Ma sœur est numéro 2, moi je suis numéro 4, et entre nous on a un frère qui s'appelle Hilaire, et qui est le grand franchouillard de nous 4. Et donc la tradition c'est que quand il rentre à Noël pour les quelques jours en famille, comme il habite
que
à Barcelone,
que des bons produits français,
que des bons produits,
du fromage, du vin,
exactement,
de la bonne charcuterie de...
Exactement, et juste avant de se lancer, il y a 3 ans, maman lui avait offert le pâté du père Marc, que vous connaissez sans doute par cœur, n'est-ce pas?
Oui,
qui vient d'habiter de Brickbeck, près de Cherbourg, et on l'a trouvé très bon en famille, et on s'est dit tiens c'est rigolo que des abbayes vendent du pâté. On ne savait pas que ça existait. Et on s'est dit, si on combine ça avec fromage et bière, qui sont des produits un peu emblématiques des abbayes, on peut faire un apéro des moines, un apéro monastique. C'est un peu absurde, mais ça peut être rigolo.
Mais en même temps, il y a beaucoup de produits qui, à l'origine, étaient d'abord fabriqués par les moines, dont Pérignon, bon, on va citer
des
marques, tant pis, pour le champagne.
Bien sûr.
J'imagine que vous avez d'autres produits en tête.
Les liqueurs, comme
la
chartreuse.
La chartreuse.
Chartreuse, qui date, la recette officielle date du 18e siècle, début 18e. Elle n'a pas changé depuis.
Beaucoup de liqueurs, d'ailleurs.
Beaucoup de liqueurs. Il y a aussi des liqueurs de mandarine, il y a du limoncello fait par les moines, etc. On peut penser à la bière aussi, bien évidemment. Les moines ont le monopole de la bière sous Charlemagne au 8e siècle de mémoire. Donc c'est eux qui ont tout inventé. La toute première bière double, c'est les moines de Westmalle.
Ben
la toute
voilà.
première bière triple, c'est les moines de Westmalle. La toute première bière quadruple au monde, c'est les moines de Königshoven. Donc en fait, les moines trappistes ont tout fait en bière. La meilleure bière du monde actuelle, c'est une bière trappiste aussi, brassée par les moines de Vesveteren. Donc effectivement, les moines sont en fait à la pointe de pas mal de produits d'épicerie fine, mais personne ne les connaît. Si je
en
vous
fait...
dis Vesveteren, ça ne vous parle pas.
Non.
C'est la meilleure bière du monde.
Ça donne envie de goûter tous ces produits. Alors, c'est vrai qu'il y a des sites internet qui mettent en évidence tous ces produits réalisés dans les abbayes, mais il fallait y penser, justement, créer une box qui pouvait rassembler donc, différents produits de différentes abbayes. J'imagine que vous travaillez avec quasiment toutes les abbayes de France qui proposent des produits, ou en tout cas une grande partie.
Oui, on bosse aujourd'hui avec 65 abbayes, principalement en France et un petit peu en Europe, avec quasiment toutes celles qui font de l'épicerie fine. Il y en a aussi d'autres avec lesquelles on ne peut pas travailler parce qu'elles font des tapis, des chaussures, etc. Ouais. Donc c'est très bien, mais pour une box d'épicerie fine, c'est pas hyper
adapté.
C'est
un peu compliqué. Du coup, effectivement, on peut dire que vous avez modernisé un peu tout ça. Vous leur proposez une autre manière de se faire connaître auprès du grand public.
Oui, donc c'est un nouveau canal de diffusion pour eux, effectivement. Là où on se différencie vraiment des autres qui vendent des produits monastiques un peu comme nous, c'est vraiment sur le côté information. Dans chacune des box qu'on envoie, il y a toujours un petit livret qui fait une vingtaine de pages et qui explique tout sur chaque produit et chaque abbaye. Concrètement, c'est où est-ce qu'est située l'abbaye en France? Combien il y a de moines? Est-ce que ce sont des trappistes, des bénédictins, des cisterciens, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est ça, c'est-à-dire qu'on déguste des bons produits, on se régale.
Et on se renseigne un peu.
Mais on se renseigne également.
Ouais.
Bon, ça tombe bien, on est en radio filmée, donc c'est l'occasion de présenter Divine Box, mais on va quand même la décrire pour nos auditeurs qui ne verraient pas ces images. Donc effectivement, donc, c'est une box assez classique. Donc là, la terrine campagnarde, la charcuterie de la trappe, on a du chardonnay, des petits biscuits, des petits croustillants, on a même du bon pain d'épices. Et effectivement, avec tous ces bons produits, des pâtes de fruits, du chocolat, on a ce petit livret qui nous raconte un petit peu l'histoire, c'est ça, des différents produits.
Exactement. Alors, c'est l'histoire des produits des abbayes. L'idée, c'est de fournir suffisamment de contenu à ceux qui veulent creuser un peu la question et qui s'intéressent un peu à qui sont derrière ces produits. Et donc, sur chacune des pages, vous savez où est située l'abbaye en France, combien il y a de moines sur place, de quel ordre c'est. Est-ce que c'est un bénédictin, un cistercien, un trappiste? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a aussi une petite page qui explique chacun des ordres monastiques de la box. L'idée, c'est vraiment de fournir du contenu pour pouvoir d'abord se régaler, évidemment, avec les produits qui sont super bons, mais aussi et surtout comprendre un peu qui y a aujourd'hui dans les abbayes. Parce que le monde monastique, en fait, est assez peu connu. Bon, c'est normal, ils sont cloîtrés, donc ils n'ont pas une vocation à faire de la com en permanence.
Mais ils ne sont pas sur Instagram, Twitter et
Facebook. Ils sont très peu sur Instagram. Il y en a quelques exceptions, mais c'est rare. Et du coup, nous, on le fait, entre guillemets, pour eux. Donc, on publie pas mal de photos, de vidéos, de ce que nous, on découvre, parce qu'on fait des tournées d'habits. Donc, on fait la tournée des popotes avec chacune des habits avec lesquels on travaille. Et le but, c'est de déjà papoter avec les moines, évidemment, savoir comment ils travaillent, combien ils sont, où est-ce qu'ils sont sur place, etc. Et puis aussi de prendre des photos pour pouvoir raconter ce que nous, on voit à nos abonnés dans nos livrets, sur Facebook, sur Instagram, etc.
Alors, ça tombe bien parce qu'on est vraiment, pour le coup, dans une vraie traçabilité avec ce petit livret. Les Français veulent consommer mieux, hein, que ce soit de la bière, des savons, des produits de bien-être. Donc, Vous répondez vraiment à cette demande-là aujourd'hui ?
Oui. Alors, on n'a pas du tout surfé sur ce concept. Ce n'était pas du tout volontaire, mais effectivement, les produits monastiques répondent de fait aux attentes des clients aujourd'hui. Ils veulent de la traçabilité. Là, on peut vous donner l'adresse exacte et éventuellement le nom de la sœur qui l'a fabriqué. Ensuite, ils veulent des produits qui sont bons. Dans les abbayes, c'est quand même des personnes qui sont consacrées à Dieu, donc pour qui la création a un vrai sens et donc le respect du produit et de l'ingrédient est assez fort. Et puis, troisième chose, ils veulent des produits qui ont un sens parfois. Donc là, c'est un sens de contribuer à soutenir le patrimoine monastique qui est bien évidemment culinaire mais aussi architectural. Il y a certaines abbayes comme peut-être celle que vous connaissez, l'abbaye de Lérins près de Cannes, qui date du 5e siècle, donc c'est à plus de 1500 ans d'histoire, et donc en contribuant à Divine Box et aux autres produits monastiques en général, on contribue humblement à l'entretien de tout
ce patrimoine. Ouais. Alors pourquoi vous l'avez fait du coup? Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure?
Alors donc on a eu l'idée, comme j'ai dit, par mon frère, et ensuite pourquoi on a voulu concrétiser l'idée? Pour deux raisons. La première, moi j'étais encore étudiant, en master entrepreneur, et je voulais monter une boîte pour voir ce que ça faisait concrètement. Et donc là, c'était passionnant. On a vu très rapidement comment on travaillait avec la poste pour la livraison, comment on travaillait avec des moines, etc. Et puis ensuite, parce qu'on voulait un travail qui ait du sens avec ma sœur, Astrid. Et on a trouvé que ça, c'était assez sympa de pouvoir goûter des produits et des bières en permanence.
Et changer peut-être et aussi l'image de l'artisanat monastique.
Ouais, exactement. On contribue à rendre l'image moderne et un peu plus jeune. Non pas qu'elle soit vieillotte ou autre, mais parfois on a cette image, je sais pas d'où ça vient, peut-être de certains films ou autres
Au nom de la rose, je ne sais quoi.
Exactement, qui diffusent une image monastique un peu mystérieuse, grise, etc. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on voit sur place quand on se déplace, c'est pas du tout ça. C'est des communautés qui sont joyeuses,
lumière,
qui sont parfois
gay,
20, 30, 50, 80.
Et donc
c'est ce qu'on a envie de montrer. Et des produits qui sont super bons, évidemment. Ça, c'est la première chose.
Mais alors, comment fonctionne votre modèle économique? Vous en avez un quand même avec ce produit?
Oui, on n'est pas bénévole. Comment on fonctionne? Donc, pour chacune des boxes, nous, on a un prix professionnel, donc qui n'est pas le prix public que l'abbaye nous donne. Ce prix, chose importante, il n'est pas négocié. Donc, c'est dans le monde monastique, il y a la notion du prix juste. Donc, l'abbaye nous dit, pour tel produit, ce sera tel prix, parce que c'est en fonction des coûts qu'on a, des matières premières qu'on a achetées, des emballages, etc. Et le fait de négocier dans ce milieu-là, en fait, est une rupture du lien de confiance entre les abbayes et entre nous. Donc, c'est très important, c'est un prix qui ne se négocie pas, donc c'est vraiment à prendre ou à laisser.
Et dernier prix, le prix de cette box?
Alors, celle-là est à entre 32,90 et 42,90 en fonction du format que vous prendrez.
D'accord. Elle a combien, cette box?
Alors, cette Divine Box, entre 32,90 et 42,90 en fonction du format que vous prenez. Il y a une petite et une grande.
On n'est pas obligé de prendre un abonnement mensuel, on peut l'acheter à l'unité également?
Alors, vous pouvez prendre un abonnement mensuel, je vous encourage vivement à le faire, mais effectivement, vous pouvez en prendre une ponctuellement, soit pour un cadeau ponctuel, soit pour vous, pour découvrir.
Noël, notamment.
Mais évidemment, pour Noël. Alors, il faut se dépêcher, vous avez jusqu'à lundi 10h du matin, ensuite, ce sera trop tard.
Divinebox.com, c'est bien ça?
.fr, divinebox.fr.
Divinebox.fr. Encore un grand merci, Côme. Bess, c'est une excellente idée.
Merci à vous.
Et joyeux Noël.
À vous aussi, merci.
Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Restez avec nous, ça va vous intéresser.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, pour cette émission un peu spéciale, vous avez choisi, je crois, de mettre en avant un patrimoine culturel de saison, les chants et les chansons françaises de Noël.
Exactement, et pour en parler, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien. Il est donc prêtre, mais aussi chanteur, auteur et compositeur. Il aime les mots qui ont du sens et les mélodies intemporelles. Et comme je vous le disais, on a échangé il y a quelques jours dans un café près de la Madeleine, et j'en ai profité pour lui demander de me parler du chant de Noël qui le touche le plus.
Il est toujours très difficile de préférer quelque chose parce qu'on a toujours peur d'exclure le reste. Mais je me souviens des Noëls de mon enfance, et c'est vrai que lorsque retentissait le fameux « Il est né, le divin enfant », c'était une joie immense, non seulement pour le cœur de l'enfant que j'étais, mais aussi pour tous les vieillards qui étaient là, tout le monde versait une petite larme. Parce que je crois que la grâce de Noël, c'est justement de toucher profondément le cœur humain et d'ordonner en quelque sorte à toute l'humanité une sorte de trêve. Tout le monde oubliant ses ressentiments et tout le monde essayant de nouveau de s'aimer comme il convient.
Quel merveilleux véhicule, la chanson justement.
Mais bien sûr, comme disait Beaumarchais, tout finit en chanson, mais je dirais presque que tout commence en chanson, puisqu'on a été bercé par nos parents lorsqu'on était enfant. Et puis ensuite, toute la vraie culture, elle traverse la chanson, et notamment la chanson française. Quand une idée finit par être chantonnée, elle passe profondément dans l'intelligence humaine.
Parce qu'on a parlé justement de ce patrimoine chrétien, ces chants, ces pastorales, mais il y a également nos grands chanteurs qui ont chanté Noël.
Oui, par exemple, Tino Rossi, que j'ai bien connu, à qui je dois tant, puisque c'est lui qui m'a poussé à venir à Paris pour entamer une carrière artistique il y a bien longtemps désormais. Mais je ne l'oublie pas et je me souviens qu'à chaque Noël, évidemment, à la télévision, alors que là, tout le monde la regardait encore, eh bien, il apparaissait et il chantait « C'est la belle nuit de Noël, petit papa Noël ». Et voyez, même cette réalité qui n'apparaît pas vraiment chrétienne, il faut la maintenir. Il faut que les enfants continuent de rêver et d'espérer. À travers tous ces mots et cette présence de cet être surréaliste, si je puis dire, ce Père Noël qui promet le bonheur à tous les enfants du monde.
Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.
Qui n'a pas été bercé par cette chanson de Tino Rossi? Mais alors, c'est bien parce que grâce au père Michel-Marie, bien on en redécouvre le sens, Thibault.
Bah oui, c'est vrai. Et puis une chanson de Noël, c'est très particulier. Et à ce propos, j'ai demandé au père de me décrire ce qui est pour lui la chanson de Noël idéale.
Eh bien, d'abord, j'y mettrai tous les éléments qui constituent Noël, c'est-à-dire la création qui se réjouit à travers les sapins que l'on décore. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de lumière, beaucoup de mélodie dans cette chanson, que ce soit très mélodique, qu'en même temps, du côté des paroles, on sente l'espoir qui renaît. Et là, je pense d'ailleurs à une chanson, je ne sais pas si vous vous souvenez de John Littleton, « C'est Noël tous les jours ». Et ça, c'est une chanson absolument magnifique. Dès qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant, dès qu'on arrête une guerre, c'est Noël dans notre cœur. Aujourd'hui, vous voyez, dans la ville, je vois toutes ces illuminations qui nous rappellent ce grand mystère de la naissance de Dieu sur la terre, parce que c'est ça. Et il ne faut pas que sur le plan de la foi, la raison d'être de Noël disparaisse. Et je ne vous dis pas ça parce que je suis prêtre, mais parce que sinon on risque de perdre cette féerie, cette réalité merveilleuse qui est quand même ce Dieu qui vient et qui ouvre ses bras à l'univers entier. Venez, venez, je vous ai créé et je vous aime.
Un message universel?
Oui, un message universel, même pour ceux qui n'ont pas la foi. Mais il faut que l'enfant Jésus soit encore déposé dans la crèche pour que Noël continue d'exister.
Alors cette chanson de Noël que vous décriviez, Michel-Marie, elle sera peut-être au programme de votre nouvel album. Ça me donne l'occasion de vous demander comment vous composez, d'où vous vient l'inspiration?
Eh bien, je laisse germer en moi tout simplement ce qui me semble important à dire aujourd'hui à ceux qui aiment la musique et qui y sont sensibles. Mais je pense qu'il n'y a pas de véhicule meilleur que la mélodie pour transporter des idées dans le cœur humain. Oui, moi je suis pour la chanson un message. Il faut qu'elle dise quelque chose, il faut surtout qu'elle nous soulève et qu'elle nous sorte de tout ce marasme ambiant qui vient nous écrabouiller, nous écraser.
Un dernier mot en conclusion pour nos auditeurs?
Bien, je crois que le mystère de Noël, c'est ce qui nous aide à ne pas rester insensibles aux misères d'autrui. Parce qu'aujourd'hui, on passe facilement devant la pauvreté, devant toutes les misères humaines, qu'elles soient morales, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sociales. Et il est important que Noël soit là pour que nous aussi, comme l'enfant Jésus, on ouvre nos bras à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui ont besoin d'un seul sourire.
Merci beaucoup, Père Michel-Marie.
Merci à vous, cher Thibault.
Je voudrais juste ajouter que le Père Michel-Marie vient de publier un très beau livre qui s'appelle « D'un amour brûlant ». Puis en attendant son nouvel album, prévu pour le printemps, vous pouvez redécouvrir le précédent qui s'appelle « Bonjour la vie ».
Merci beaucoup, Thibault. Merci à vous, chers auditeurs. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Joyeux Noël, Thibault. Joyeux Noël, Côme.
Joyeux Noël,
Thibault. Et on se retrouve la semaine prochaine.